Restez informés tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Fogodioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
Au sommaire de cette édition, la CEDEAO reste très préoccupée par la durée de la période de la transition au Burkina Faso, qu'elle juge trop longue et décide de maintenir la suspension du pays de toutes les instances de l'institution jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Procès Thomas Sankara, fin des plaidoiries hier au tribunal militaire, le verdict est attendu pour le 6 avril prochain. Notre invité du jour est Souleymane Ganou, maître assistant en études culturelles africaines à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, où il enseigne au département des lettres modernes. Avec lui, il sera question de réalisation des clips vidéo des artistes au Burkina et leur contribution au développement. Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue. On ouvre ce journal par les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu hier à Accra, au Ghana. Pour ce qui est du Burkina, les chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation au sujet du maintien en détention de l'ancien président Roch Kabore. Ils exigent sa libération avant le 31 mars 2022 au plus tard. Au-delà de cette date, des sanctions individuelles seraient imposées aux autorités de la transition. L'institution sous-régionale se dit également très préoccupée par la durée de la transition qui est de 36 mois, qu'elle qualifie de trop longue et maintient la suspension du Burkina Faso, de toutes les instances de la CEDEAO jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Sur la situation politique au Mali, la CEDEAO invite les autorités de transition à respecter le calendrier de 12 à 16 mois recommandé par la prolongation. Les frontières restent toujours fermées et le pays sous embargo. La CEDEAO dit regretter la non-disponibilité du président de la transition, Assimi Goïta, afin de rechercher une solution à la situation actuelle. Et puis, concernant la Guinée, la CEDEAO appelle à la finalisation d'un calendrier de transition acceptable afin, d'ici avril au plus tard, régler la situation de transition au pays. Passé ce délai, des sanctions individuelles seraient infligées aux membres du gouvernement et du CNT. Procès Thomas Sankara, encore quelques jours et les accusés du procès Sankara seront situés sur leur sort. L'audience a pris fin hier soir avec les plaidoiries des avocats du général Gilbert Dienguiré. Une journée au cours de laquelle les avocats du général ont tenté de démontrer l'innocence de leur client. Le général Dienguiré, lui, pense que le parquet a été envoyé pour le faire condamner, quel que soit le moyen. C'est ce que nous dit notre reporter Abdoul Fattah Tiemtouré.
Si on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. C'est ce qu'a lancé le général Gilbert Dienguiré au parquet ce vendredi. Devant les juges, il a laissé entendre qu'il sait qui envoie le parquet militaire sans donner l'identité de ces personnes. À d'autres occasions, dans ce procès, il avait mentionné le nom de l'ancien premier ministre de la transition, Isaac Zida. Pour lui, le parquet aurait reçu des instructions de tout faire pour qu'il soit condamné. Et faute de trouver des preuves matérielles pour me confondre, l'accusation cherche des éléments subjectifs pour me maintenir dans les liens de l'accusation, regrette Dienguiré. Selon lui, ces éléments subjectifs, c'est sa vie privée, son caractère ou encore son amitié avec Blaise Compaoré et bien d'autres choses, sans lien avec les faits. L'accusation veut juger le général Gilbert Dienguiré au lieu de juger le lieutenant Gilbert Dienguiré de 1987, a-t-il ajouté, précisant qu'en 87, il n'avait pas la même longévité aux côtés de Blaise Compaoré. Il met aussi en doute les témoignages entendus dans ce procès. Il traite certains témoins d'hypocrites et même de faux types pour n'avoir rien fait pour éviter ce qui s'est passé le 15 octobre 87 pour finalement venir se faire passer pour des fidèles du chef de la révolution devant les juges et devant l'opinion. Certains ont d'ailleurs, rappelle-t-il, servi le Front populaire dès ses premiers instants. Plus tôt dans la journée, c'est maître Paul Kéré et maître Mathieu Sommé qui ont plaidé pour lui, avec comme angle choisi la prescription des faits. La prescription, c'est le délai au-delà duquel la justice ne peut plus connaître d'un dossier, un peu comme une date d'expiration. Dans le cas de l'assassinat, la loi prévoit un délai de 10 ans. Pour ce qui concerne le dossier Sankara, la première plainte a été déposée le 3 octobre 1997, soit 12 jours avant le 10e anniversaire de ces événements macabres. Cette plainte concernait uniquement les faits d'assassinat et de faux en écriture administrative. Le dossier est parti jusqu'en cassation devant la Cour suprême de l'époque, qui a rendu une décision en défaveur des victimes en 2001. En principe, et c'est ce que défend Maître Sommé, cette décision en dernier recours éteint tout simplement la procédure. En termes juridiques, l'avocat parle d'autorité de la chose jugée qui rend impossible un débat à nouveau sur le sujet. Mais à supposer que l'action ne s'est pas éteinte en 2001, Maître Sommé rappelle qu'il a fallu attendre 2015 pour que le dossier soit à nouveau ouvert. Là encore, problème, ce nouvel acte d'instruction intervient plus de 14 ans après la dernière décision. Certains pourraient parler de l'avis du Comité des droits de l'homme des Nations Unies en 2006 qui a estimé que le dossier n'était pas prescrit et qu'il fallait le rouvrir. Pour l'avocat, cet avis n'est pas une loi, un avis reste un avis et un avis ne peut pas transformer un crime prescriptible en autre chose, s'est-il exprimé. Quant à l'accusation d'attentat à la sûreté de l'État, Maître Mathieu Sommé a préféré se résumer. Cette infraction n'a été introduite qu'en 2015 à l'occasion justement de la réouverture du dossier. 1987-2015, 28 ans écoulés. Je vous prie d'acter la prescription et de déclarer l'action publique éteinte, a plaidé Maître Mathieu Sommé.
Avant cela, le général a annoncé qu'il portera plainte contre l'agent judiciaire de l'État. Les raisons avec Abdoul Fattah Tiemtouri.
Cela fait partie des développements inattendus de ce procès. Le général Gilbert Diendéré porte plainte contre l'agent judiciaire de l'État, cité par les parties civiles pour, entre autres, servir de garantie de solvabilité, l'État s'est fait représenter par son agent judiciaire. Et pour expliquer que les accusés sont bien solvables, celui-ci a pris l'exemple sur Gilbert Diendéré, qui n'aurait jamais touché à son salaire dans une banque de la place pendant 17 ans. Et cette banque aurait adressé des félicitations au général et lui aurait même offert un véhicule flambant neuf pour cela. Dès la prise de parole de Diendéré, il a lancé ceci: officiellement, devant vous et devant toute l'assemblée ici présente, je porte plainte contre l'AJE devant les juridictions pour diffamation. Il compte, à ce qu'il a laissé entendre, demander à l'AJE de dire devant les juridictions de quelle banque il s'agit, le numéro du compte concerné et le véhicule flambant neuf dont il parle. Après quoi, le général Gilbert Diendéré a énuméré tous les comptes qu'il tient dans différentes banques et les occasions pour lesquelles il les a ouverts.
Aéroport de Dansin, des syndicats demandent à nouveau l'annulation de la convention de concession. Le collectif des syndicats de l'aéronautique était face à la presse hier pour se faire entendre une fois de plus. Il a appelé les nouvelles autorités à annuler la convention de concession de l'aéroport de Dansin à Marseille Méridien AMP, dénonçant le fait que le groupe français puisse exploiter le futur aéroport pendant 30 ans, avec seulement un investissement de l'ordre de 20% du coût total du projet. Le collectif dénonce donc la signature de la convention de concession de l'aéroport de Dansin entre le gouvernement d'alors. Suivez plutôt. Le projet de concession du futur aéroport de Dansin au groupement français Méridien AMP n'augure d'aucune perspective heureuse et ambitieuse pour l'industrie du transport aérien au Burkina Faso, fustige le collectif des syndicats de l'aéronautique. Ahmed Lamizana, porte-parole du collectif.
Signer une convention pour 30 ans sans que l'organe législatif n'ait ratifié ça. Ils nous disent dans la convention que la sûreté est exclue du périmètre de concession. Mais au même moment, c'est le concessionnaire qui va récolter 80% des recettes et 20% va revenir à l'État. Je vous parle de sûreté, hein, dans un contexte de terrorisme. L'assistance en escale, pour ceux qui sont du domaine, savent très bien que c'est la partie, j'allais dire, juteuse. À Niamey, si vous partez, l'État dit non. Ils ont fait 51% pour l'État et 49% pour le concessionnaire. Nous avons décidé de prendre l'assistance en escale et de donner ça gratuitement avec tous les équipements qu'ils ont qui coûtent des milliards qu'ils viennent d'acheter de façon gratuite. Est-ce que vous trouvez que ça protège les intérêts du peuple burkinabé?
Si l'ancien ministre de l'économie et des finances, Lassane Kabore, reconnaissait des incohérences et des insuffisances dans les discussions du dit contrat, les syndicats de l'aéronautique vont plus loin et exige l'annulation pure et simple de cette initiative de convention qui, du reste, a été ratifiée en octobre dernier.
Il faut annuler cette convention qui a été signée là. Ça, c'est la première des choses à faire. Ce qui va être dangereux pour le peuple burkinabé, c'est de laisser vraiment la mise en œuvre de cette convention. Et ensuite, la démarche qui s'y est, c'est vraiment qu'on ait une démarche inclusive où tous les acteurs sans tabou pourront véritablement contribuer, notamment les techniciens qui sont du domaine, les partenaires sociaux.
Le collectif des syndicats de l'aéronautique appelle donc les nouvelles autorités en place, notamment le président de la transition, à se saisir du dossier pour sauver au plus vite l'industrie de l'aéronautique au Burkina Faso. À l'occasion de la deuxième édition du concours de start-up, 8 candidats reçoivent les fruits de leurs sacrifices. Parmi ces 8 candidats, 6 ont bénéficié d'un prix d'encouragement et les 2 autres ont reçu le prix de l'excellence. La cérémonie de remise de ces prix s'est tenue jeudi dernier à Ouagadougou. On note que le start-up est un tremplin qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat moderne pour l'innovation et l'émergence des entrepreneurs nationaux et régionaux. Moumouni Tamboura et Mokhtar Tabsouba.
L'économie numérique dans l'agro-industrie est le centre d'intérêt de cette deuxième édition du start-up. Oumu Ouidrago a reçu le 3e prix d'excellence pour avoir mis Amazonia Service, un service qui a pour spécialité le séchage du poulet et le poulet fumé. Elle reçoit une somme de 12 millions qui lui permettra de développer la logistique de son entreprise et pour elle, c'est une invite au travail.
J'ai saisi alors l'opportunité qui m'a été donnée de prendre la parole en mon nom et au nom de tous les lauréats de ce prestigieux concours dans nos pays, les jeunes et les femmes sont de plus en plus entrepreneurs et ne cessent d'innover. Ce prix est donc pour moi une invite à travailler davantage afin de servir d'exemple pour les autres entrepreneurs. Les fonds reçus permettront à l'entreprise de se mettre à niveau sur le plan logistique pour répondre au mieux aux exigences des clients, tant nationaux qu'internationaux.
Le ministre du Développement de l'Industrie, Abdoulaye Tall, rassure les candidats de l'accompagnement continu de la commission de l'IOMOA. Il les invite à plus de créativité.
Ces start-up-là seront accompagnés par la commission de l'IOMOA, ce qui garantit un certain succès et on a un espoir de les revoir dans les années à venir. Plus start-up, mais de grosses entreprises qui réussissent dans leur domaine et donc qui contribuent à la création de richesses nationales et donc à l'amélioration des conditions de vie de nos populations.
Les différents responsables de l'organisation du concours Start-up sont tous unanimes que ce projet est un moyen pour promouvoir l'employabilité des jeunes. Ils invitent la jeunesse à s'intéresser à l'entrepreneuriat.
À l'international, au Togo, Gilbert Ngbo, l'ancien premier ministre, a été élu hier vendredi à la tête de l'Organisation internationale du travail. Jusqu'ici, président du Fonds international du développement agricole, il devient le premier africain à diriger l'agence onusienne. Gilbert Ngbo prendra ses fonctions au mois d'octobre prochain à la tête de l'OIT. Il a affirmé vouloir mettre la justice sociale au cœur de son mandat. Au Soudan, les manifestations contre le régime militaire se poursuivent. Une nouvelle grève est prévue aujourd'hui dans l'après-midi à Khartoum. Les partis d'opposition demandent également la libération des détenus politiques. Selon l'opposition, 24 personnalités ont été arrêtées et sont toujours détenues. Parmi elles, Khalid Omer Youssef, secrétaire général du Congrès soudanais.
Omega Sport.
Les barrages allés de la Coupe du Monde Zone CAF s'est joué hier. L'Égypte s'est imposée 1-0 à domicile face au champion d'Afrique en titre, le Sénégal. Match nul 0-0 à Kumasi entre le Ghana et le Nigeria. La RDC a fait jeu égal 1-1 face au Maroc. Le Mali s'incline 0-1 face à la Tunisie. Les Lions indomptables du Cameroun ont été domptés par l'Algérie par la plus petite des marques. 1-0 et les matchs retour se disputeront le mardi prochain.
L'invité du jour.
Notre invité du jour est Souleymane Ganou, maître assistant en études culturelles africaines à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, où il enseigne au département de lettres modernes, auteur du livre pour une anthropologie de la création musicale, clip vidéo, entité culturelle et développement. Il aborde dans cet entretien la réalisation des clips vidéo des artistes au Burkina et leur contribution au développement. Suivons cet entretien réalisé par Romain Ouari.
Professeur Ganou, bonjour.
Bonjour.
Votre nouveau livre que vous venez d'éditer, ce livre aborde d'ailleurs la culture précisément de l'audiovisuel. Qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire un tel livre?
Mes recherches sur la musique de façon générale ont commencé depuis que je faisais la maîtrise. Alors, ce qu'il faut savoir, d'abord, quand j'ai entrepris de faire un mémoire, j'ai remarqué que il y avait des mémoires sur la musique, mais il n'y avait pas de mémoire sur le clip vidéo. Pourtant, le clip vidéo, c'est une création artistique qui donne beaucoup de possibilités, une œuvre d'art totale. Parce que à l'intérieur du clip vidéo, vous avez d'abord la musique, qui est d'ailleurs à la base de la création de la vidéo. Donc il y a la musique audio, il y a le texte de chanson, il y a la danse, le théâtre, avec tout ce que cela peut impliquer comme réalité scénique. Je vais parler de personnages, je vais parler de costumes, je vais parler de décors. Donc voici en gros ce qui a motivé, n'est-ce pas, d'étudier le clip vidéo. Parce que en étudiant le clip vidéo, on a la possibilité d'étudier plusieurs réalités liées à notre patrimoine culturel.
Alors, bien sûr, dans le besoin de l'écriture de votre livre, vous avez eu à rencontrer des professionnels de l'audiovisuel, des artistes, des réalisateurs des clips vidéo du Burkina Faso par rapport à d'autres pays. Comment vous les appréciez?
Il faut savoir que au début, les années 90, il y avait un problème de qualité lié sûrement à la qualité aussi du matériel. Mais depuis la fin des années 2000, on a constaté une véritable révolution dans la réalisation des clips vidéo. Nos clips peuvent rivaliser avec des clips venus d'autres aires, du point de vue en tout cas qualité. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a plusieurs artistes, surtout les jeunes, cette tendance-là à imiter ce qui vient d'ailleurs en prenant des cultures venues d'ailleurs. Et cela, des fois, en allant à l'encontre de nos valeurs culturelles. Pourtant, l'artiste a un devoir, a une responsabilité, celle, n'est-ce pas, d'être en phase avec les réalités de la société, d'être en phase avec les valeurs de la culture de la société, parce que l'artiste, c'est un ambassadeur, celui-là qui véhicule sa culture à travers les valeurs de cette culture-là.
Alors effectivement, vous avez parlé des clips vidéo dont on doit tenir compte aussi du milieu d'où nous sommes. Alors, il y a des clips vidéo de certains artistes qui n'ont pas été surtout appréciés par bon nombre de citoyens qui trouvent d'ailleurs que c'est une atteinte aux mœurs. Est-ce que vous pensez que nous devons copier ce que les autres font dans leur pays?
Tout ce qui arrive là, c'est l'effet des médias. Autant la société peut influencer les médias, autant les médias aussi peuvent influencer la société. Ce qui est présenté à nous par certains artistes dans leur production, ça vient des médias qui diffusent des réalités venues d'ailleurs. Mais je pense que nous avons des valeurs et qu'il faut respecter. Et quand on fait une création, qu'on veut que ça dure dans le temps, surtout quand on est artiste, il faut qu'on soit regardant, n'est-ce pas, de nos valeurs. Sinon, on peut faire une création qui va révéler les contre-valeurs de notre société et ces types de créations ne feront pas long feu. Personne ne voudra inviter un artiste qui va présenter dans sa chanson des personnes qui sont dans une posture pas du tout catholique ou bien qui va dire dans le texte de ses chansons des réalités qui ne nous ressemblent pas.
Bien sûr, dans votre livre, vous avez parlé de la musique moderne qui s'inspire bien sûr de la musique traditionnelle des griots où ils ajoutent de la fusion. Mais est-ce que dans cette dynamique, nous ne risquons pas un jour de perdre les couleurs musicales de nos traditions?
Je ne pense pas qu'on va perdre nos valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, le danger même pour que nos traditions vivent, c'est de refuser que cette tradition aille à la rencontre d'autres réalités. Toute culture, même la tradition, évolue et se modernise. En amenant nos musiques à aller à la rencontre d'autres réalités musicales, Je pense que ça permet à ces musiques-là de pouvoir s'adapter au monde. Je vois un peu ce dont vous voulez parler. C'est pas seulement le fait de prendre les instruments modernes et de venir les associer aux instruments traditionnels pour produire de la musique, mais aussi il y a la modernisation même de l'instrument traditionnel qui permet à la tradition d'aller vers le moderne et de s'inspirer du moderne et de marcher avec le moderne et pouvoir, n'est-ce pas, durer dans le temps.
Dans votre livre, vous avez souligné que le clip vidéo permet de promouvoir la musique de l'artiste, l'artiste lui-même, son image. Mais force reste de constater qu'aujourd'hui, les clips vidéo restent les parties les plus difficiles pour les artistes parce que ça demande beaucoup de moyens. Comment les artistes peuvent travailler pour pouvoir s'en sortir dans la réalisation des clips qui coûtent d'ailleurs des frais un peu chers?
Pour que les artistes puissent s'en sortir, il faut d'abord qu'il y ait un travail qui soit mené par d'autres acteurs en dehors des artistes. Il nous faut une politique culturelle assez forte et qui prenne en compte des réalités liées à notre environnement et liées à la production artistique. Il y a manque de mécènes et il y a manque également de grandes maisons de production qui puissent réellement prendre en charge les artistes et faire de véritablement des phénomènes artistiques. Un artiste aujourd'hui, quel que soit son talent, il ne peut pas se lever seul et pouvoir conquérir le monde. Il faut qu'autour de lui, il y ait toute une chaîne qui se mette en branle pour pouvoir le pousser vers des cieux qu'il n'avait pas espéré auparavant.
Professeur Ganou, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction.
C'est la fin de ce journal mis en onde par Adama Konaté. À la présentation, je suis Abdoulkader Konaté. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.